Radio Air présente
VIP,
l'invité de la rédaction.
Notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est Jean de Corvey. Bonjour Jean, bienvenue à ce micro.
Bonjour.
Alors, au lieu de dévoiler d'emblée votre fonction, vos titres, j'aimerais qu'on puisse décorer un petit peu, avec un élément peut-être anodin à première vue, mais qui ne l'est certainement pas. Quelle est la chose ou le geste le plus significatif que vous faites quand vous vous réveillez le matin?
Oui, la question intéressante. C'est une question que je me suis posée récemment à la lecture d'un livre, Liturgie de l'ordinaire. On n'en a pas parlé préalablement, donc ça tombe assez bien. Qui est un livre qui nous pose des questions sur finalement notre rythme quotidien. Voilà, on se lève le matin. En général, on se brosse les cheveux, on s'habille, on se regarde dans le miroir, on avance dans la journée. Et à chaque fois, ces éléments rythment notre vie. En quoi il y a des attitudes intérieures qui peuvent rythmer notre vie face à Dieu, face aux autres. Et le matin, effectivement, où on a tendance à aller très rapidement à se lever du lit.
Ou être des zombies.
Ou être des zombies, effectivement.
Si vous avez la personnalité.
Oui, oui. Ça peut aussi arriver, hein. Mais là, de manière un peu plus intentionnelle, je me lève, je pose les pieds par terre. Voilà, on est pieds nus le matin, donc on sent ça plante des pieds sur le parquet. J'entre dans une journée. Maintenant, le sommeil est derrière, la nuit est derrière. On peut être effectivement fatigué, mais cette nuit est terminée. Et donc, en posant les pieds par terre, se poser intérieurement, disant, maintenant je vais entrer dans la journée. Je suis dans une période de transition. Je signifie par un geste que je vais m'enraciner dans une journée. M'enraciner dans quoi ? Donc c'est à ce moment-là que j'essaie de dire le Notre Père, ou que je dis le Notre Père. Alors, je ne le fais pas tous les jours. Hein.
La prière
du Notre Père.
Que Jésus a enseignée.
Voilà, qui est une prière que l'on connaît par cœur, que je connais par cœur, qui peut paraître répétitive, mais c'est souvent dans cette répétition que l'on peut justement se replacer devant Dieu, non pas en réinventant la roue, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et donc je fais ce geste-là, en faisant le lit aussi, pour dire, tiens, maintenant la nuit est terminée, donc on va faire le lit avant de passer à autre chose.
Et après, vous commencez la journée avec votre famille, vous êtes marié, Jean, et vous avez des enfants.
Oui, oui, Christine, je suis effectivement marié à Sarah, maintenant suisse, mais américaine d'origine, suissesse depuis 2 ans. Et nous avons 2 enfants de 6 ans et de 3 ans. Donc le matin, voilà, il faut aussi pouvoir s'occuper d'eux. Il y a les déjeuners à faire. C'est ça devient vite très, très animé.
Vous mettez vite dans la journée, hein, ça c'est
voilà.
Sûr. Entraîné dans la journée par vos enfants. On va dire maintenant aussi ce que vous faites, à part d'être mari et père, c'est que vous êtes recteur de la HET Pro, la Haute École de Théologie Pro. Alors, il y a des termes qui se cachent là derrière. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu tout ça?
Oui, Haute École de Théologie, donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, hein, on est dans une école qui permet aux différents étudiants d'entrer dans le champ de la théologie, c'est-à-dire tout ce qui vraiment touche aux convictions religieuses, chrétiennes, par rapport à Dieu, non seulement au niveau de la Bible, mais aussi dans l'interconnexion avec qui nous sommes dans nos interactions avec la société, avec nous-mêmes, avec d'autres personnes, etc. C'est pro comme protestant, donc protestant, voilà, c'est ce grand ancrage de la réforme, hein, qui nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, pas par la foi et les œuvres, mais avant par la foi qui nous vient de Dieu, et que nous connaissons Dieu par les Écritures seules. Et le tout pour être à la gloire de Dieu seul. Soli Deo Gloria, qui était une des grandes devises, hein, de la réforme. Voilà, protestant, c'est nous rappeler finalement que nous nous ancrons dans cet héritage-là. Professant, pro comme professant, donc pro-protestant, pro-professant, professant dans le sens que nous voulons avoir une réflexion théologique, ces convictions, comme je l'évoquais, mais des convictions qui soient vécues, qui soit dans une communion fraternelle. Donc il y a une dimension intellectuelle, une dimension fraternelle, une dimension communautaire. Et c'est un peu ce qui se cache, on va dire, derrière le terme professant. C'est une foi vivante, une foi articulée, une foi interconnectée. Et nous avons d'ailleurs au sein même de l'école des possibilités, ce qu'on appelle des respirations spirituelles, où on prend 15 minutes par jour pour se poser justement, avoir un temps de silence devant Dieu, pour comme un peu se repositionner après 3 ou 4 heures de cours face à Dieu, un peu comme le matin, j'évoquais le matin. Et là, c'est une manière aussi de dire, tiens, voilà, un autre moment de la journée, juste avant le repas, où est-ce que j'en suis? Et puis un peu ce... Voilà, comme une espèce de boussole, hein, se rappeler où est le nord.
Mmh. Et il y a un troisième terme.
Protestant, professant.
Être un pro, par exemple.
Être un pro, alors c'est vrai, effectivement, être professionnel, là c'est professionnalisant. C'est-à-dire vraiment une école où les étudiants sont appelés à être dans l'église dans des stages. Et l'idée est de ne pas simplement être dans l'église où j'ai grandi, où je connais tout le monde, où finalement je suis peu décentré, où je suis peu défié dans ce que je fais, dans ce que je vis, mais exprès dans des lieux aussi différents, ou alors si c'est l'église où j'ai grandi, dans des fonctions différentes, parce qu'il y a une grande diversité au sein même des églises. Et donc le professionnalisant, ce sera ce va-et-vient entre mes convictions que j'ai et que je charrie avec moi lorsque j'arrive dans un centre de formation, par exemple, en l'occurrence la Haute École de Théologie. Je crois, voilà, je crois un certain nombre de choses. Mes compagnons d'études croiront, pour une bonne part, ce sera la même chose, puis pour d'autres éléments, ce sera un petit peu différent. Et pourtant, on peut prier ensemble, on peut être absolument ensemble. Pourquoi ? On a des héritages familiaux, on a des parcours de vie qui nous façonnent et qui créent comme ça un petit peu des sillons. Et c'est une très bonne chose, c'est inévitable hein, d'ailleurs. Au travers des stages, l'idée de dire, tiens, quelles sont mes convictions et en quoi la pratique peut questionner éventuellement mes convictions. Et à l'inverse, en quoi mes convictions influencent ma pratique. Et c'est ce va-et-vient-là qu'on veut mettre en avant à la HET Pro au travers des 3 années. Pour qu'au terme de ces 3 années, ce ne soit pas simplement un étudiant comme préformaté hein, par l'école, mais un étudiant qui, au contact des stages, au contact de la diversité des stages, de la diversité des églises, de la diversité des fonctions qui ont pu être expérimentées, puisse après se dire, tiens, voilà finalement qui je suis devant Dieu. Et développer une posture où je suis prêt à entrer dans ce va-et-vient, pas simplement dans ces 3 années, mais même pour la vie. Ça se trouve dans le métier. C'est une posture, je crois, qui est aussi utile dans le mariage, en tant qu'on parlait tout à l'heure, voilà, en tant que mari, en tant que père, où on doit de temps en temps, bah oui, faire des ajustements. Et si je suis buté, ça peut créer des frictions au sein de la famille. Si je suis buté aussi dans mes convictions, je peux passer à côté peut-être de richesses spirituelles. Là, l'idée, c'est d'encourager les étudiants à être dans une posture où ils peuvent s'ouvrir à de nouvelles richesses qu'ils n'auraient peut-être pas soupçonnées avant même de venir ici.
Il paraît que tu m'as cherché, j'étais caché dans l'olivier. Sur un nuage, j'étais perché en attendant l'orage. Il paraît qu'on t'a vu pleurer, tu t'es caché sous l'olivier. Et quand l'orage a éclaté, c'était mes larmes sur ton visage. Tu le sais, que cet amour sera là dans 1000 ans. Je le sais, ouais, qu'on sera parti bien avant. Dans 1000 ans, sais-tu où on sera? Lui sera toujours là, et toi seras-tu là? Et dans 1000 ans, sais-tu ce qu'on fera? D'autres que nous serons là, d'autres que nous, crois-moi.
encore dans l'olivier. J'ai vu dans le ciel dégagé comme un heureux présage. Tu le sais, que cet arbre sera là dans mille ans. Je le sais, ouais, qu'on sera parti bien avant. Dans mille ans, sais-tu où on sera? Lui sera toujours là, et toi seras-tu là? Et dans mille ans, sais-tu ce qu'on fera? D'autres que nous serons là, d'autres que nous, crois-moi. Et ça me fait de la peine de ne plus y croire. Sous le ciel qui regarde, j'entends mon cœur pleuvoir. Et ça me fait de la peine de ne plus y croire. Ne viens pas couper l'arbre, monte plutôt me voir.
De retour dans VIP, vraiment intéressante personne, c'est Jean de Corvey. Aujourd'hui, qui est là à ce micro. Jean, vous avez fait des études de théologie, vous avez aussi exercé comme pasteur pendant plusieurs années. Est-ce que être pasteur, c'est ce que vous imaginiez ou peut-être rêviez de devenir quand vous étiez plus jeune, déjà?
Alors, je veux dire oui. En tout cas, ce désir, hein, ce souhait d'entrer dans le ministère pastoral est né très tôt, vers l'âge de 12 ans, donc assez précoce, on va dire, hein, en général, par rapport à celles et ceux qui s'engagent dans le ministère pastoral. Je me souviens, quand j'avais 7-8 ans, c'était plutôt cuisinier que je voulais être. Voilà, c'était une des premières choses que j'avais à l'esprit. Puis à un moment, je voulais être policier aussi.
D'ailleurs, vous cuisinez vous-même?
J'aime bien cuisiner. Mm-hmm. J'aime bien cuisiner, effectivement, faire des petits plats pour la famille. Ça repose aussi, ça repose l'esprit. Je trouve ça... Voilà, travailler avec ses mains pour le plaisir des autres aussi, et de soi, mais aussi des autres, de la famille. C'est vrai que ça repose, ça fait du bien. Et puis assez rapidement est né ce souhait de pouvoir être au service de Dieu dans un milieu pastoral. J'ai découvert assez rapidement qu'il n'y a pas que le pastorat qui permet de bien sûr être au service de Dieu. Mais je suis moi-même né dans une famille pastorale, dans une longue lignée de pasteurs, un milieu qui m'a fait envie. Les choses sont bien vécues. D'abord sur le campus de la Ligue, il y avait beaucoup de va-et-vient, des gens d'origine très diverses.
Donc la Ligue, c'est une organisation pour promouvoir la Bible?
Oui, merci de dire ça. Effectivement, la Ligue, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est une organisation internationale, qui a à cœur surtout le ministère auprès des enfants.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez, enfin, qui fait partie vraiment de votre vie familiale, entre autres, et votre expérience?
Qui a fait partie de ma vie familiale dans la mesure où j'ai grandi sur le campus de la Ligue pour l'étude de la Bible en Suisse, quand il était à Lausanne, où il y avait des camps sur place, où j'ai fait beaucoup de camps, il y avait beaucoup de rencontres avec quasiment toutes les dénominations protestantes, il y avait aussi des catholiques d'ailleurs qui venaient. Donc voilà, ça crée une certaine ouverture qui m'a façonné. Puis après, ma jeunesse, on va dire, l'adolescence, c'était plutôt dans un milieu réformé, une paroisse voilà, qui, où les choses se passaient bien, avec un groupe de jeunes où je me suis engagé, où j'ai pu mettre aussi de moi, de mon aide, de mon énergie, j'ai des amis. Et donc ça faisait envie de dire, tiens, je peux être engagé dans une église, Dieu peut agir, et ça fait à la fois envie de pouvoir être présent dans des églises qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, l'occurrence des églises réformées, ne sont pas toujours les plus dynamiques, en tout cas, ce n'est pas réputé pour cela, mais c'est possible. Et donc, l'idée de pouvoir aussi contribuer, dans la mesure de mes moyens, à œuvrer, à construire l'église. Et je crois que ce chemin-là a été conduit par Dieu aussi, jusqu'à aujourd'hui où je suis à la Haute École de Théologie, non pas en tant que pasteur, en tant que directeur, mais enfin, ça, c'est pour former aussi des pasteurs. Donc, on reste dans quelque chose d'assez similaire.
C'est intéressant d'ailleurs d'entendre, vous avez décrit un campus de Haute École, avec beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents. Vous avez aussi, dans le cadre de la Haute École de Théologie, une sorte de... J'aime pas tellement le mot slogan, mais il y a cette phrase forte quand même qui est mise en avant et qui vient de vous, je crois. C'est « Oser un cœur intelligent ». J'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu.
Alors effectivement, dans la HET Pro, alors on a une vision, une mission, des valeurs que l'on peut trouver sur le site internet. Et puis par-delà cette vision qui s'articule avec beaucoup, beaucoup de termes, est-ce qu'il y a une expression qui peut finalement récapituler ce que l'on a à cœur. Est venue cette expression-là, cœur intelligent. Le cœur intelligent fait référence surtout à la prière du roi Salomon dans la Bible, qui, voilà, le roi David est décédé, donc je paraphrase là le texte. Hein.
Son père, donc.
Voilà, le roi David, son père.
Il devient roi à la suite de son père.
Il est jeune, il est humble, il est un petit peu, pas angoissé, mais en tout cas, il a crainte des responsabilités qui sont devant lui en tant que roi d'un royaume, d'un peuple. Et il y a cette prière qui s'engage entre lui et Dieu, presque un dialogue, une quasi-connivence hein, entre les deux. Et Dieu qui est touché d'ailleurs par l'humilité de ce roi, en tout cas à cette époque de sa vie. Et Dieu qui demande à Salomon, mais... S'il y a une chose que tu voudrais me demander, ce serait quoi ?
Dieu pose des questions intéressantes.
Oui.
Hein.
et Salomon me dit, ben, donne-moi un cœur intelligent, qu'on traduit souvent par sagesse, avec l'élément proverbial, hein, la sagesse proverbiale de Salomon, qui est même entrée dans le français courant. Donc Dieu le lui a donné, ce cœur intelligent. Ce qui montre que ce que nous traduisons par sagesse, en fait dans la Bible, le cœur, ce n'est pas simplement le sentiment. Hein, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, disait Blaise Pascal. Mais dans la Bible, le cœur est plus que cet élément sentimental. C'est aussi la volonté, c'est d'ailleurs l'intelligence. C'est ce qui nous pousse en avant, c'est ce qui unifie l'être intérieur. Pour pouvoir justement se mouvoir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller de l'avant avec cohérence. Et Salomon dit, dans ce qui me meut, dans ce qui me permet d'aller de l'avant, intérieurement, dans ce cœur-là, qu'il y ait de l'intelligence, c'est-à-dire une capacité à entendre ce que Dieu dit et à l'appliquer, le traduire pour la vie finalement de tous les jours. Et c'est vrai que je trouve ça très beau, et par-delà moi, enfin, l'ensemble de l'institution, en disant, essayons d'oser ça. Alors, oser est un terme beaucoup plus usité, hein, mais oser un cœur intelligent, ça veut dire aussi oser se dépouiller devant Dieu, oser être vulnérable devant Dieu. Qui suis-je ? Est-ce que j'ai vraiment ce cœur intelligent ? Quelle est ma motivation lorsque je viens à la Haute École de Théologie ? Qu'est-ce qui est en moi ? Qu'est-ce que je vise ? Comment est-ce que je me positionne face à Dieu, mais face aux autres ? On parlait encore une fois de père, en tant que père par rapport à mes enfants, par rapport à mon épouse. Donc ça va bien au-delà simplement du « moi-je » face à Dieu. Mais moi face à l'ensemble de ce qui m'entoure. Et là-dedans, qui suis-je ? Quelle posture ai-je ? Et nous encourageons les étudiants à avoir une posture qui soit une posture justement de vulnérabilité devant Dieu pour voir ce que Dieu peut leur dire et qu'eux soient aussi à l'écoute des autres pour être dans une posture de, non pas de pragmatisme pur ou de sentimentalisme pur, mais d'union de cette vie justement intellectuelle, fraternelle, communautaire, de curiosité, et que tous s'interpénètrent de manière cohérente. Et alors, pour reprendre ce mot aussi de la réforme, à la gloire de Dieu.
Oui. Je ne veux pas de cet amour, ces sourires, ces abat-jours. Pas cet amour-là. Je ne veux pas de ces caresses, tous ces gestes de tiroir caisse. Pas cet amour-là. Non, pas celui-là. L'amour ici-bas. Se prend et puis se jette, t'oublie, te mord et puis t'achète, te glisse entre les doigts, se fracasse du haut des toits, et je cherche à mon tour à percer ce mystère, ce trésor. Pas la réalité. Oh, dis-moi. Du haut des citadelles, de nos tours de Babel, on aime sans toi. On meurt sans toi. L'amour ici-bas se vend. Et puis se jette, t'oublie, te mord et puis t'achète, te glisse entre les doigts, se fracasse du haut de toi, et je cherche mon tour à percer ce mystère, ce trésor.
On On écoutait le groupe Mamgueuz et je cherche à mon tour à percer ce mystère, ce trésor qui descend du ciel. Avec Jean de Corvet, notre VIP, notre invité VIP, on en a appris un petit peu plus sur la phrase devise qui accompagne la description de la Haute École de Théologie HET Pro, dont Jean est le recteur. Alors cette expression « oser un cœur intelligent », est-ce que ça a été votre propre expérience, Jean ? Comment vous l'avez découvert en vous, ça ?
Alors, l'élargissement de ce cœur, là, le mariage a joué un rôle important. Avec mon épouse, nous discutons beaucoup. Elle m'a fait prendre conscience aussi de, à la fois de potentiel, à la fois aussi d'un coup d'angle mort. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui met le doigt sur ces angles morts pour pouvoir mieux être ensemble, vivre ensemble, être dans un vis-à-vis avec mon épouse. Et donc, du coup, le cœur intelligent prend une autre dimension. On se rend compte qu'il y a une plus grande profondeur quand on peut le vivre avec quelqu'un. Et je lisais un livre aussi, d'ailleurs, mon épouse étant américaine, pendant longtemps on l'a fait, on le refait d'ailleurs actuellement, où soit on prend un livre de la littérature mondiale, on le lit en anglais ou en français, on faisait aussi... un autre élément qui en prenait... Je choisissais un livre de la littérature française qu'elle lisait. Elle prenait un livre de la littérature anglaise que moi, je lisais. Et puis,
pour faire découvrir l'un à l'autre.
Voilà, pour découvrir la culture de l'autre. Et dans la littérature dit beaucoup d'une culture, dit beaucoup d'une langue. Alors, on en a pris, voilà, Steinbeck, Hemingway, là, on est dans Hannah Arendt, donc vraiment des choses, pas du tout, en l'occurrence, chrétien, mais ça nous ouvre au monde. Et parallèlement à ça, je lisais un livre d'un philosophe français, dont un des sous-titres était « Un cœur intelligent ». Et c'est là que ça m'a frappé. Lui-même n'est pas chrétien, il est d'origine juive, moi, pas trop pratiquant. Mais il avait été frappé par cette prière de Salomon. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de voir qu'un philosophe de l'Académie française, en l'occurrence, met en avant cette prière de Salomon. Il dit, mais cette prière de Salomon traverse les siècles. Et donc, il y a une puissance dans cette prière qui touche finalement tout un chacun. Et c'est dans ce sens-là que je dis, tiens, c'est une devise qui ne se veut pas être une devise de l'entre-soi, mais au contraire, une devise d'ouverture. Et c'est cette lecture, l'occurrence, même par ce philosophe, l'a encore illustrée.
Jean, vous avez parlé de Sarah, votre épouse qui est américaine. Qu'est-ce que ce mariage interculturel vous a apporté en particulier? Ou qu'est-ce que vous avez découvert principalement autour de cette interculturalité vécue au sein du couple?
Alors, énormément de choses, on ne peut pas parler de tout, juste vaste, là, comme hein. Ça maintenant, c'est vrai que c'est très vaste. Un élément premier déjà, quand on dit interculturel suisse-américain, peut-être de prime abord, on pourrait penser que c'est relativement peu interculturel puisqu'on reste dans le monde occidental. Mais c'est un peu plus que ce qu'on peut imaginer. Combien même j'ai vécu aux États-Unis avant que l'on se rencontre, combien même elle a vécu en France avant que l'on se rencontre. D'ailleurs, on s'est rencontrés quand elle était en France. Et tout d'un coup, on se rend compte, oui, voilà, la Suisse, nous, on est plutôt gentils, hein. On aime bien le compromis, on aime entreprendre des choses, on est bons ingénieurs, etc. Mais les choses se font souvent assez lentement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide, parfois plus dur aussi. D'ailleurs, la vie professionnelle est souvent plus dure qu'ici. Mais il y a une énergie qui est incroyable. Alors,
just do it.
Voilà.
Fais-le, vas-y, oui. Tu peux le faire.
Alors, pour le meilleur, parfois pour le pire aussi. Il n'y a aucune culture qui est absolument parfaite, évidemment. Et nous ne prétendons pas avoir pu réunir le meilleur des États-Unis, le meilleur de la Suisse, le meilleur de la France, étant aussi un peu français. Mais enfin, on découvre tout d'un coup la force de l'autre, dans la culture de l'autre, que l'on connaissait un petit peu avant. Puis tout d'un coup, on découvre aussi certaines limites. Et donc, ça met aussi en avant ses propres limites à soi. Voilà, on a une bonne idée de soi, et puis on garde une bonne idée de soi après coup, mais du coup, on l'enrichit par un regard autre qui vient dire, mais tiens, qu'en est-il de cet aspect-là de ta vie ? es-tu aussi entreprenant dans tel ou tel élément ? Et être avec, en l'occurrence, une personne d'arrière-plan américain qui aime entreprendre, qui entreprend beaucoup de choses professionnellement, socialement. On a à peine déménagé dans un nouveau quartier, qu'elle s'est engagée dans l'association de quartier pour reprendre la communication, quand bien même le français n'est pas sa langue maternelle. Donc tout de suite, elle s'engage, elle est proche des gens, en interrogeant aussi. Puis, es-tu proche des gens aussi en dehors de ton propre milieu chrétien, protestant, un peu évangélique. Et je remarque que, il y a aussi là une dimension à développer, que j'ai en moi, que je veux pouvoir développer, mais la vie a fait que je ne l'ai pas toujours développé autant que ce que j'aurais pu. Et donc, à deux, on peut le faire davantage. Et les deux, nous aimons bien tout ce qui touche à l'esthétique. Je parlais de littérature, donc nous aimons la littérature. Si possible, une belle littérature, une littérature qui apporte, qui élève l'âme, qui fait réfléchir aussi. On aime bien aller dans des musées ensemble pour apprendre, découvrir ce que l'art peut dire, donc que ce soit la littérature, les arts visuels ou la musique. Donc ça fait partie des éléments aussi que le mariage a apporté. Et j'avoue que ça, c'est une belle expérience et ça fait du bien.
On va parler un peu musique, justement. En quoi Sarah et sa culture aussi vous a ouvert à d'autres musiques ou des choses que vous connaissiez peut-être un peu moins?
Par exemple, les musiques du sud des États-Unis. On connaît un petit peu Johnny Cash, évidemment, avec une très belle musique, alors plutôt du sud des États-Unis. Et au Texas, il y a ces monstres sacrés de la musique qu'on connaît un peu moins ici, mais qui est très très connu aux États-Unis, surtout dans le sud, c'est Willie Nelson, que je ne connaissais pas du tout. J'aurais dû, mais je ne connaissais pas. Et beaucoup de ces musiques de Willie Nelson qui emportent, qui font réfléchir. Ce n'est pas cette musique non, il y a quelque chose d'assez profond là derrière. Nous aimons bien aussi la musique classique, et ça c'est plutôt moi que elle. J'aime bien aussi le hard rock, donc je peux passer parfois de Handel, que j'ai toujours aimé. Je trouve vraiment une musique qui élève l'âme, les oratorios de Handel, à du hard rock. En tant que cadeau, j'aimais bien des groupes chrétiens comme Stryper notamment. Et puis aujourd'hui, j'écoute volontiers Metallica. Des fois, si j'ai besoin de me concentrer, j'aime bien avoir de la musique un peu forte. Et il y a aussi dans ces groupes de hard rock, je pense à cette chanson « The Day That Never Comes », qui est un petit peu angoissant, j'avoue. C'est justement le jour qui ne vient jamais. Et on voit, c'est l'histoire de gens un petit peu angoissés qui attendent quelque part une catastrophe et ils sont dans cette angoisse, dans cette recherche de solutions pour échapper à la catastrophe. Puis finalement, la catastrophe n'arrive jamais. Et fort heureusement pour eux. Mais ça nous fait du coup questionner sur nos propres angoisses, nos propres stress. Et en tant que chrétien, comment est-ce que je gère mes angoisses? Comment est-ce que je gère le stress? Je trouve intéressant de voir en quoi la musique générale, que ce soit du sud des États-Unis, que ce soit un oratorio de Handel ou du hard rock comme Metallica, touche quelque chose d'existentiel si l'on prête attention aux paroles. Est-ce que ça éveille? Voilà, où je pense à d'autres musiques qui me viennent juste maintenant à l'esprit, Yesterday des Beatles avec Paul McCartney, qui a écrit cette chanson-là à 24 ans. C'est une maturité extraordinaire de la part de McCartney, qui parle d'hier, et à quel point hier peut paraître beaucoup plus sain, beaucoup plus beau. Mais du coup, ça pose la question sur le aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait à titre personnel, à titre familial, à titre de couple, à titre professionnel, etc.
Eh bien, c'est une très bonne question à laquelle on invite chacune et chacun à réfléchir. On va se dire au revoir maintenant, Jean, avec la chanson de Metallica dont vous parliez juste à l'instant, « The Day That Never Comes ». Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous, Christine.
Merci.
Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.
Sur radio-r.ch.